Voilà, il y a 2 semaines, nous avons regardé le premier chapitre de 1 Jean. Cette lettre a été écrite par l'apôtre Jean à peu près 60 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Au premier chapitre, Jean parle du fait qu'il a été témoin de ce Jésus-Christ. Il l'a vu, il l'a touché, il a passé du temps avec, il l'a connu. Et maintenant, il annonce aux églises de l'Asie mineure que Jésus, révélé par Dieu le Père, est la fondation pour la communion que nous puissions avoir les uns avec les autres et aussi avec Dieu le Père. Il a continué en déclarant que Dieu est lumière pure et parfaite qui expose le péché des hommes. Si quelqu'un croit que le péché ne lui touche pas, il est menteur et il dit que Dieu est menteur, puisque c'est Dieu qui dit que nous sommes pécheurs. Mais Jean nous offre une solution à notre péché. Si nous le confessons, si nous nous tournons vers Christ, nous pouvons recevoir son pardon. C'est sûr et certain, parce que c'est la promesse que Dieu nous donne. C'est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, nous connaissons tout ça, mais quand même, nous nous posons, au moins moi je me pose parfois la question, est-ce que mon péché est vraiment pardonné? Peut-être vous rappelez-vous d'une des questions du début du message d'il y a 2 semaines. Est-ce que vous avez déjà dit au Seigneur, Seigneur, c'est encore moi, même péché encore. Et notre réponse à cette question, j'imagine que pour la plupart, nous avons répondu oui, j'ai fait ça. Quand nous prions, nous venons devant notre Seigneur et nous disons, me voici, c'est moi encore une fois. C'est un jour différent, mais le même péché. Et je crois que chacun d'entre nous, quel que soit notre âge chrétienne, connaît ce problème. Quand nous péchons, alors que faisons-nous? Jean a déjà dit au chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais encore, nous posons la question, comment puis-je être certain que Dieu m'entend quand je confesse mon péché? Et comment est-ce que je peux être certain qu'il me pardonnera? Nous allons lire dans 1 Jean. Nous sommes au chapitre 2 et nous allons lire seulement 2 versets ce matin. Nous sommes à la page 1228. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà, ces deux versets sont la suite de ce que Jean a dit dans le premier chapitre. Quand nous devenons chrétiens, nous commençons une nouvelle vie qui n'est pas dominée par le péché. Nous vivons dans la lumière et nous évitons les ténèbres. Notre regard sur le péché change. Avant de nous tourner vers Jésus-Christ, nous étions esclaves au péché, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 6. Cela veut dire que nous ne pouvions pas éviter le péché. Le péché était un fait accompli dans notre vie. Nous ne pouvions que pécher. Mais en Christ, nous avons été libérés. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Il nous est possible de dire non au péché. Et Jean dit aux chers chrétiens des églises auxquelles il écrit, « Mes amis, je ne veux pas que vous péchiez. Vous vivez autrement maintenant et le péché ne va pas avec cette nouvelle vie. » Et Jean écrit pour démontrer l'erreur de ceux qui nieraient la réalité du péché, certains qu'on a vu il y a quelques semaines. Il disait, en fait, comme nous avons vu il y a deux semaines, ces gens disaient qu'ils n'avaient pas de péché. Le péché ne les touchait pas. Ils étaient, selon leur propre croyance, au-dessus de toutes ces choses. Mais Jean, étant un réaliste, comprend que bien que le chrétien soit libre, il a quand même la tendance de pécher. Ne péchez pas, dit Jean. Mais il sait que même avec nos meilleures intentions, il va nous arriver de tomber et nous allons pécher. Mais quand nous péchons, ne désespérons pas. Et pourquoi? Un seul mot, Jésus. Ce qu'il fait, qui il est et ce qu'il a fait. Comment réagissez-vous à l'injustice et au mal? Qu'est-ce que vous avez vu à la télé ou lu dans les journaux ces derniers jours qui vous fait dire « c'est injuste » Si nous, nous réagissons contre l'injustice et le mal, tels que nous sommes, que pouvons-nous dire de Dieu? Nous sommes faits à son image et notre réaction à l'injustice reflète un peu sa réaction à l'injustice. Mais comparer notre réaction à celle de Dieu, c'est comparer une bougie à un phare. Dieu est parfait, pur, lumière. Que pense-t-il de l'injustice et le mal qu'il voit dans sa création? Une fois auparavant, Dieu a effacé le mal de la face de la terre. De la race humaine, il n'y avait que Noé et sa famille qui ont survécu. Et Dieu a promis de ne plus jamais agir ainsi. Sa colère sainte et juste redouble contre le péché. Et un jour, il va dire « assez ». Et sa colère tombera sur cette terre. Cela sera le jour du jugement dernier, la fin du monde, comme nous avons lu dans Matthieu. Jean nous dit dans son évangile que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Paul, l'apôtre Paul, nous parle aussi de cette colère. Elle se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, quand nous parlons du péché et la colère de Dieu, c'est une affaire sérieuse. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Si la colère de Dieu reste sur ceux qui pêchent, quel espoir pour nous quand nous péchons? Selon ces versets, nous avons Jésus, l'avocat. Jésus est notre avocat auprès du Père, aujourd'hui, maintenant. C'est ce qu'il fait. Il parle au Père pour nous défendre. Quand Dieu nous voit, quand il voit notre péché, sa réaction juste est de nous condamner. Cela parce qu'il est 100% pur, 100% saint. Il ne tolère pas le péché. Mais quand Jésus parle au Père, il ne parle pas de ce qui est bien chez nous. Il ne cherche pas à nous défendre avec une liste de ce que nous avons fait du bien. Ces choses ne sont rien devant Dieu. Nos bonnes œuvres ne comptent pour rien en ce qui concerne la question de la vie et la mort. Et Jésus est notre avocat grâce à ce qu'il est et grâce à ce qu'il a fait. Il y a peut-être certaines choses qu'il faut dire avant de continuer. Aujourd'hui, les avocats, si je comprends bien, sont souvent présentés comme des personnes malhonnêtes, concernés par leur propre confort, l'argent, une voiture cool, des choses comme ça. Ils veulent gagner à tout prix, avec la loi ou sans la loi. Je ne sais pas s'il faut croire ce qu'on voit à la télé, mais quand Jean dit que Jésus est notre avocat, il ne veut pas dire que Jésus essaye de tordre le bras de Dieu pour qu'il soit gentil avec nous. Dieu le Père et Dieu le Fils étaient d'accord sur un plan par lequel Jésus deviendrait notre avocat. Et ils l'ont mis en pratique. La Bible est très claire à ce sujet, que quand Jésus est mort à la croix, il l'a fait de son plein gré, par amour pour nous, et qu'au lieu de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, comme c'est écrit dans Hébreux 12. Dieu le Père l'a permis aussi par amour. Le plan du salut a été conçu et mis en pratique avec l'accord de tous les membres de la Trinité. Il y avait l'unité à chaque étape. Et le but du plan du salut était la restauration de notre relation avec Dieu. Cette relation a été corrompue et brisée par la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Alors, retournons pour un instant à l'image de l'avocat aujourd'hui. Non seulement il nous est présenté sous un aspect pernicieux, mais tout le système de la justice, tribunal, juge, procès, nous est présenté comme froid et impersonnel. En est-il ainsi avec Dieu? Non. Au cœur du salut, nous trouvons la réconciliation. Cela ne peut pas être impersonnel. Dieu veut rétablir une relation avec nous. Sa justice demande la punition pour le péché. Son amour a trouvé un moyen de satisfaire sa justice légitimement. Qu'est-ce qui se passe alors? Quand Dieu nous condamnera pour notre péché, Jésus lui dira, « Père, j'aime celle-là. Elle m'appartient. » Elle s'est répondu, « Elle croit en moi. Mon sacrifice la couvre. Elle n'a pas à être condamnée. » Et puis, il n'a qu'à montrer ses mains avec la marque des clous. La marque de la croix et du jugement de Dieu, le juge qui nous acquitte. Le péché qui était suffisant pour nous condamner est rendu impuissant. Alors dans ces versets, Jean parle de Jésus-Christ, le juste. Et avec cette courte phrase, Jean nous dit quelque chose de la nature et du caractère du Fils de Dieu. Il est Jésus, qui veut dire totalement homme. Son prénom, Jésus. Matthieu, dans son évangile, nous dit que l'ange a dit à Joseph que tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La lettre aux Hébreux nous dit que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus est devenu un être humain, parce que ce qu'il aime et ce qu'il veut sauver sont des êtres humains. Puis Christ, qui veut dire le Messie en grec, ce n'est pas son nom de famille, c'est une déclaration de sa divinité. Avec un mot, Jean enracine ce que Jésus a fait, son sacrifice dans l'Ancien Testament et dans l'alliance entre Dieu et Israël. C'est une alliance qui a été brisée plusieurs fois par les Israélites. Le système du temple, prêtre et sacrifice du Lévitique a été institué pour traiter le problème de l'alliance brisée. Jésus qui s'est sacrifié à la croix est le sacrifice ultime de l'Ancien Testament. L'ancien sacrifice du jour des expiations qui se trouve dans Lévitique 16 réglait le compte du péché d'Israël pour une année seulement. Le sacrifice de Jésus a réglé le compte du péché pour toujours. Et ces deux points sont vraiment importants pour nous quand nous considérons certains des problèmes des églises de Jean plus tard dans notre série sur 1 Jean. On fait beaucoup de problèmes venant du fait qu'il y avait certains qui disaient que Jésus, l'homme, n'était pas aussi pleinement Dieu. Et puis, le juste. Cela parle de son caractère éternel. Jésus était un homme sans péché. Il a gardé parfaitement la loi quelque chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est cela qui l'a rendu acceptable aux yeux de Dieu le Père comme sacrifice pour expier les péchés de l'humanité. Jésus était l'agneau sans tache que Jean-Baptiste a reconnu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Encore une image qui rappelle les sacrifices faits au temple pour le péché du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc Jésus-Christ, le juste, qui il est, rend possible ce qu'il a fait à la croix. Ce qu'il a fait à la croix rend possible ce qu'il fait maintenant. Nous, et peut-être quand je dis nous, je parle des prédicateurs, nous aimons souvent les longs mots. Et parfois, utiliser un long mot sert à dissimuler quelque chose de simple. Nous avons quelques bons exemples en anglais. Et peut-être que vous allez me dire qu'il y en a aussi en français. Mais je vais essayer de les prononcer avec mon meilleur accent britannique. Voilà le premier mot. Hippopoto-monstro-skipédilien. Oui, c'est vrai, c'est un mot. Hein? C'est un mot de 30 lettres qui veut dire tout simplement long. Long. Puis on a anti-disestablishmentarianism. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'est 28 lettres qui veut dire opposition à la séparation de l'Église et l'État. Et je ne sais pas si je saurais dire l'autre. C'est flocina ossinili pilification. C'est 29 lettres qui veut dire la catégorisation de quelque chose comme inutile. Mais parfois, nous avons besoin d'un long mot pour expliquer une grande idée. Jean nous dit que Jésus était le victime expiatoire. Il y a un autre mot qui définit plus complètement ce que Jean dit ici. C'est la propitiation. Il faut s'entraîner pour le dire aussi. Expiation, victime expiatoire, fait partie de l'idée de la propitiation. Mais ne nous donne pas tout son sens. Voilà, expiation et propitiation. Pas autant de lettres que les beaux mots anglais, mais il est important de savoir ce qu'ils veulent dire. L'expiation veut dire réparer un crime ou une faute en payant un prix approprié. C'est l'enlèvement du péché par un acte du pécheur ou d'un autre. Et puis la propitiation veut dire apaiser ou détourner la colère de quelqu'un. Normalement, ce quelqu'un est un dieu ou divinité. Donc quand Jean dit que Jésus est la victime expiatoire ou la propitiation, il parle de deux choses. Jésus est celui qui a détourné la juste colère de Dieu du mal que nous faisons. Et il a fait en payant un prix pour ce mal. Jean dit que Jésus est une victime. Ce n'est pas dans son intention que nous comprenions que Jésus a été contraint à agir d'une façon qui n'accordait pas avec sa volonté. Le prix demandé pour le mal que nous faisons a été payé à la croix quand Jésus est mort. Jean fait allusion au sacrifice de Jésus quand il parle du sang de Jésus, son fils, qui nous purifie de tout péché. À la croix, Jésus s'est occupé du problème du péché dans son entier. Tout notre péché est couvert. Ce que nous avons fait dans le passé, ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous ferons dans l'avenir. Le prix pour tout est payé. Et Jésus s'est occupé non seulement du problème de notre péché, sa mort pourvoit à notre purification aussi. Une vie changée. Quel espoir pour nous quand nous sommes désespérés par notre péché. Le sacrifice de Christ est suffisant pour nous sauver et pour nous changer. Que la colère de Dieu soit détournée veut dire que maintenant nous pouvons être réconciliés avec lui. La relation peut être restaurée. Notre péché ne bloque plus le chemin vers Dieu puisqu'il l'a enlevé lui-même. Nous pouvons encore une fois connaître Dieu. Et vous ne serez pas étonnés quand je dis qu'il y a des implications dans la vie quotidienne, dans notre marche avec Dieu. Christ est mort une fois pour toutes. Le prix a été payé une fois. Christ n'a pas besoin d'être sacrifié chaque fois que nous péchions. Et cela, c'est une vérité, une réalité qui nous libère. Le travail a déjà été achevé. Jésus a déjà crié. Tout est accompli. Il n'y a rien à faire en plus. Et ce seul sacrifice, fait une fois pour tout, est appliqué à notre vie chaque fois que nous péchions et que nous confessions notre péché. Chaque fois que nous péchions, Jésus n'a qu'à montrer ses mains, comme j'ai déjà dit. Montrer les cicatrices qui sont preuve de ce qu'il a accompli. Et Dieu le Père nous pardonne par amour pour son Fils et par amour pour nous, parce que sa justice était satisfaite en Christ. Jean finit en disant que ce que Christ a fait n'était pas seulement pour nous, nous qui croyons en Jésus, mais pour le monde entier. Est-ce possible que Jean nous dit que tout le monde sera sauvé automatiquement? Il y en a certains qui aimeraient entendre cela. Mais Dieu ne pardonne pas arbitrairement. Si c'était le cas, Jean ne parlerait pas des antichrists au chapitre 2, les enfants du diable au chapitre 3, et un péché qui mène à la mort au chapitre 5. Tous auraient été pardonnés. La colère de Dieu reste sur ceux qui ne se repentent pas et qui refusent de croire en Jésus-Christ. Et cette colère se terminera un jour par le jugement. Mais puisque Christ est mort, il est possible pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant d'être pardonné et sauvé. Le sacrifice de Christ est suffisant et nécessaire pour le salut de tous. Mais tous ne vont pas confesser leurs péchés. Tous ne vont pas accepter le sacrifice de Jésus à leur place et accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, retournons à la question posée tout au début. Comment puis-je être certain que Dieu m'entend quand je confesse mon péché? Comment est-ce que je peux être certain qu'il me pardonnera? Nous en sommes certains parce que nous avons un avocat au ciel auprès du Père. Il parle pour nous défendre. Sa défense ne dépend pas de nous, mais de lui. Jésus est la propitiation pour que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Non seulement la colère de Dieu est-elle détournée, mais l'amour et la communion nous sont offerts. Le sacrifice a été fait une fois seulement, mais ses effets durent toute notre vie. Je ne peux pas prétendre comprendre tout ce qui s'est passé à la croix. Il y a toujours un certain mystère là-dedans. Mais je comprends que mon salut a été gagné et assuré à la croix. Et cela devient efficace dans ma vie quand je crois en Jésus. Et puis, quand je tombe encore une fois dans le péché, celui qui s'est sacrifié pour moi, pour me sauver, parlera pour ma défense et il m'aidera à changer aussi. Cela nous aide à vivre chaque jour, avec confiance, mais avec humilité. Quand nous péchons, nous ne désespérons pas. Nous ne sommes pas fatalistes. Le pardon n'est pas une question de sentiment. Seulement, est-ce que je me sens pardonné? Et si je le sens, oui, donc je suis pardonné. Non, c'est une question de fait. Ce qui a été fait pour nous, par Jésus-Christ qui est juste.